Je suis ravi de vous retrouver sur ce podcast Heureux au présent. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. J'ai choisi un titre un petit peu compliqué, mais vous verrez que le sujet est très simple. Le paradoxe de la normalité. Bonjour, ravi de vous retrouver. Ça y est, c'est reparti pour se retrouver une fois par semaine. Et aujourd'hui, avec ce paradoxe de la normalité, nous voulons être des gens spéciaux. Et en même temps, nous voulons être des gens normaux. C'est un petit peu compliqué, parce qu'on veut les deux. On veut être spéciaux dans le sens où on veut pas être vraiment comme tout le monde, qu'on nous regarde comme quelqu'un de particulier, d'unique, vraiment avec des aptitudes, des compétences, etc. Et puis en même temps, on veut être normaux, c'est-à-dire qu'on veut être dans le tout le monde, en fait. On veut être comme tout le monde, on veut faire comme tout le monde, ne pas détonner d'avec ce que vit tout le monde. Et la réalité est que nous sommes dans cette double identité. Nous sommes spéciaux et normaux en même temps, d'où le paradoxe de la normalité. Pourquoi nous sentons-nous mal à l'aise quand nous avons le sentiment de ne pas être normaux ? Parce qu'en fait, nous avons une réalité qui est présente dans notre identité humaine, c'est le besoin d'appartenance. On est humain. Et par conséquent, on doit être dans un groupe qu'on appelle l'instinct grégaire chez les animaux. Mais chez les humains, on n'appelle pas ça comme ça. Seulement, on a besoin d'être dans un groupe. Vous voyez le vilain petit canard, voilà, celui qui pensait qu'il était un canard et qui en fait était un cygne. Cette histoire est très très connue, donc je vous renvoie vers elle. Elle est aussi utilisée en psychologie, en psychanalyse, pour comprendre et illustrer certaines situations. On est dans ce paradoxe-là parce qu'en fait, on a besoin d'être normaux, vraiment, de faire partie des humains, d'être reconnu comme tel, et d'utiliser cette réalité comme un moyen de nous définir, de nous identifier, donc de participer à la création de sa propre identité. Et en même temps, on a besoin, même si on fait partie d'un ensemble, d'un tout auquel on appartient, d'être unique dans ce tout. Et j'ai chez moi une tasse qui dit « Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. » Et la phrase continue ensuite dessous « Comme tout le monde. » C'est vraiment ce paradoxe de la normalité. Nous avons besoin d'être exceptionnels, mais en même temps, comme tout le monde. Cette recherche de normalité nous pousse à accepter, mais aussi à construire des bornages, à mettre des bornes, poser des limites, des contours, pour définir un terrain, un cadre, nous mettre dans une case. Et à partir de là, on a le sentiment d'être reconnaissable, reconnu. Même quand on a une maladie, on va voir un médecin, on n'est pas bien, et il nous dit « votre maladie s'appelle » et il donne un nom. Le simple fait de donner un nom participe à faire que ça y est, on fait partie d'un ensemble de gens qui, même s'ils sont malades, sont des normaux dans la mesure où ils sont étiquetables dans une maladie. Ils sont identifiables, identifiés, et par conséquent, possèdent une identité. Combien de personnes ont vécu un cancer, comme ça a été mon cas, et se sont surpris de dire « mon cancer ». Comme si on avait eu besoin de fusionner, de s'identifier avec une réalité pour faire partie des personnes qui, quelque part, possèdent un cancer. C'est une manière de se dire, en fait, j'appartiens, sous-entendu, à une norme, à un groupe, donc je suis. C'est en même temps un sentiment de puissance que d'appartenir, que d'être dans une norme et non pas dans une spécificité. Mais on est dans la norme, donc on a un sentiment de puissance, on a un sentiment de domination par la nomination finalement. Parce qu'on a la capacité de donner un nom, je suis un tel, je suis comme ça, faisant partie de tel groupe, et bien comme j'ai un point commun, des points communs avec cette identité-là, je suis dans une possible domination. Parce qu'en réalité, le point commun qu'il y a entre la domination et la nomination, c'est que l'on donne un nom. À partir du moment où on a besoin de dominer quelque chose, on a besoin de donner un nom. Finalement, cette démarche qui consiste à donner un nom participe à cantonner, à limiter ou à délimiter. Le fait de nommer est une manière de prendre un pouvoir. Ce n'est pas un impuissant qui nomme. Quand on se dit que l'on est déprimé, que l'on est incapable, que l'on est con, que l'on est nul, que l'on est moche, que l'on est trop gros. On donne un nom, on prend le pouvoir sur la réalité, sur ce qu'on a défini comme étant la réalité. Quand on se dit qu'on est beau, qu'on est intelligent, qu'on est brillant, qu'on est fort, qu'on est capable, qu'on est puissant, on donne un nom et on prend le contrôle sur cette réalité. Et cette prise de contrôle va participer notamment à faire en sorte qu'on va aller entériner, valider cette croyance que l'on a nommée « je suis ». Vous avez remarqué que dans tout ce que j'ai dit, je suis dans l'attribut « je suis ». Je suis beau, je suis grand, je suis moche, je suis laid, je suis intelligent, je suis brillant, je suis compétent, je suis incompétent, je suis incapable, je suis minable, je suis, comme si ces éléments-là participer à mon identité. On est vraiment dans cette approche de bornage, de limites que l'on pose, de cadres, d'étiquettes que l'on met sur des boîtes dans lesquelles on se retrouve et on va ainsi se rassurer. Il y a un malaise, oui, parce qu'on aimerait bien être spécifique. Et on sait quand on est spécifique, qu'on le veuille ou non. Mais on a besoin, même malgré cette spécificité, d'avoir ce contrebalancement vers la norme, appartenir. Autrement, on sent un malaise. Un malaise parce que on existe grâce à des contours, on existe grâce à un contrôle et par conséquent, on a le sentiment d'augmenter sa puissance. Alors que ce n'est pas le cas, on n'augmente pas sa puissance, bien le contraire, malheureusement. C'est la raison pour laquelle on est là pour ce rendez-vous. Finalement, on est dans la dynamique de la standardisation. Vous imaginez qu'il y a 200 ans, quand un agriculteur travaillait son champ, je dis 200 ans, mais ça peut être 800 ou 2000. Quand il travaillait son champ, il pouvait le travailler comme bon lui semblait. Il ne savait pas comment travaillaient ses collègues qui se situaient à 2000, 3000 km dans le pays voisin. Lui avait appris à travailler son champ comme son père lui avait appris à travailler son champ et il considérait comme étant normal de travailler son champ comme ses aïeux lui avaient appris à le travailler, à le préparer, à l'enrichir, à semer, à moissonner, etc. Il ne se disait pas « je voudrais être normal ». Sa normalité était attachée à sa lignée. Il ne cherchait pas non plus à être spécifique. Il était agriculteur, et peut-être pour certains, sortir du cadre était intéressant, et on y viendra dans quelques instants, parce qu'il pouvait peut-être expérimenter certaines choses, mais comme on n'avait pas tous les médias pour diffuser la manière de voir, de faire d'autres, cette notion de spécificité de normalité était beaucoup moins grande. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui comme c'était nouveau, mais la mondialisation a participé considérablement à créer ce besoin en même temps d'être normal et en même temps d'être spécifique. Parce que les médias participent à nourrir ce paradoxe de la normalité. Si vous n'êtes pas comme les autres, comme c'est le cas actuellement, si vous n'êtes pas vacciné, ou bien en fonction à prendre dans l'autre groupe, si vous n'êtes pas dans la théorie du complot, eh bien vous n'êtes pas normaux, voilà. Alors, pour être normal, je vais me faire vacciner. Ou bien pour être normal, je vais me mettre dans la théorie du complot, mais lequel des deux camps est le camp normal ? Alors, ceux qui sont dans la théorie du complot diront qu'ils sont normaux, et que ceux qui sont spécifiques, qui sont atypiques, sont ceux qui sont en face, et vice-versa. Et c'est pareil pour l'hétérosexualité et l'homosexualité, ou pour la sexualité ou la bisexualité. C'est pareil pour, comme on l'a vu dans de nombreuses malheureuses pages de notre histoire ou de nos histoires, parce qu'on est aujourd'hui avec des peuples qui se croisent sur le même territoire et qui cohabitent ensemble. C'est exactement ce qui s'est vécu dans les conflits de guerre, de territoire, mais aussi de race. On n'utilise pas trop ce mot en France, on n'a pas trop le droit. Aux États-Unis, on ose parler de race. Mais aujourd'hui, en France, non. Pourtant, c'est quoi un Français normal ? Est-ce que c'est un Français algérien, un Français qui vient de Croatie ou un Français, peut-être pied noir ? Qui est né à Alger, d'origine espagnole. Peut-être est-ce un Français des Antilles, de La Réunion, ou de Bretagne, ou basque peut-être. Non, peut-être qui vient de la région de Bourges, dans la Beauce. C'est quoi un Français normal ? Existe-t-il un Français normal ? Ou n'existe-t-il que des Français spécifiques, spéciaux ? Difficile de répondre à cette question. Parce qu'on pourrait répondre, oui, il existe des Français normaux. Oui, il existe aussi des Français. Mais nous sommes tous normaux et spécifiques en même temps. Oui, parce que nous sommes dans le paradoxe de la normalité. Nous voulons, ou nous avons besoin d'être différents. Et nous faisons, en même temps, comme tout le monde. Nous avons besoin de faire partie de la masse, mais nous voulons en même temps appartenir à une entité unique. Et là, entre le conflit, on a besoin de rentrer dans un apaisement finalement et de découvrir que l'enrichissement consiste à regarder les limites que l'on s'est choisies et que l'on a données comme étant des opportunités pour grandir, pour s'enrichir. Je reviens sur la nationalité, je parlais d'un Basque, d'un pied noir ou d'un Breton, je vais pas parler des Alsaciens ou de quelqu'un qui habite dans la région de Bourges, un Bourguignon ou un autre, que sais-je, hein, quelle que soit la région. Il a besoin, pour vivre sa normalité et sa spécificité, de regarder les limites qu'il s'est données, qu'il s'est choisi, qu'on lui a données. Oui, je viens d'Alsace, je suis un Alsacien. Et en même temps, je me rends compte que je ne suis pas qu'un Alsacien. Je suis dans cette norme de ce qu'on utilise pour définir un Alsacien, c'est-à-dire qu'il peut être né sur le territoire, dont les parents sont Alsaciens, etc. Je ne sais pas quels sont tous les critères que l'on met sur la liste pour dire, voilà, lui est un vrai Alsacien de l'extérieur, enfin, de l'intérieur. Enfin, vous savez, en Alsace, il y a la France de l'intérieur et la France de l'extérieur, dont l'Alsace fait partie. Mais en même temps, je ne suis pas qu'Alsacien, je suis aussi Français. Et je suis aussi peut-être héritier d'une partie d'une éducation germanique, parce qu'il y a eu tellement d'échanges entre l'Alsace et l'Allemagne, au point que d'ailleurs parfois on ne sait pas trop où se trouve la frontière. Certains étrangers d'ailleurs mettent l'Alsace en Allemagne. On en est où finalement? En quoi suis-je normal? En quoi suis-je spécifique? Où est la normalité? Si on décide de rendre, j'allais dire, les frontières de sa propre identité souples, perméables, on réduit ce paradoxe pour finalement accepter d'être et spéciaux et normaux et de le faire avec un plein apaisement. Il me vient un exercice assez simple. Vous prenez une feuille, une règle, et vous notez, vous faites un carré. Et ce carré-là, vous allez le séparer en son milieu exactement de manière verticale et en son milieu de manière horizontale. Et vous allez mettre 9 points sur tous les endroits où il y a des intersections. Donc, vous aurez donc 9 points par voie de conséquence. D'accord ? Et maintenant, vous gommez, parce que je n'ai pas dit de le faire au crayon au départ, maintenant, vous gommez les lignes qui se trouvent avoir été les lignes de construction de votre carré et les lignes d'intersection horizontale et verticale. Il ne vous reste plus que 9 points. Maintenant, je vais vous demander de relier ces 9 points avec 4 coups de crayon sans relever votre crayon de la feuille. Ceux qui connaissent l'exercice savent que le seul moyen de faire en sorte de relier ces 9 points par 4 coups de crayon sans relever le crayon de la feuille nécessite de sortir du cadre. Or, naturellement, si vous n'avez jamais fait l'exercice, vous aurez tendance à vouloir relier ces 9 points en restant dans le carré imaginaire que ces 9 points représentent. Pour avancer de manière très concrète, vous avez les moyens de savoir que vous avez besoin de sortir du cadre. En fait, c'est le défi de la publicité. Ce qui fait que nous sommes des consommateurs, que nous sommes attirés par ceci et cela, c'est parce que les publicitaires s'exercent en quasi-permanence à nous montrer qu'ils sont capables de sortir du cadre. Et parce qu'ils sortent du cadre, selon nous, ça attire notre attention. Quand vous voyez une publicité qui ne sort pas du cadre, vous vous dites « bon, celle-là, elle est minable ». Celle qui attire votre attention et qui fait que vous avez envie d'en parler avec vos potes à une soirée et voire de passer à l'acte d'achat, c'est parce que ces publicités sortent du cadre. Elles sont devenues spécifiques et normales en même temps, puisqu'on est dans le cadre dans lequel il est possible de les lire et de les comprendre, tout en sortant du cadre pour que leur spécificité nous accroche le regard et imprime notre mémoire. Alors, un exercice qui peut être accessible, déjà mentalement, avant de proposer un exercice plus concret, c'est de vous dire que vous pouvez vivre ce que vous voulez vivre sans vous référer à un cadre, sans chercher à l'identifier, à vous dire « tiens, cette action veut dire ça, cette action signifie ceci et cela ». Non, vous vivez ce que vous avez à vivre sans chercher à identifier ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Vous n'êtes pas forcément en train de jouer au foot, vous êtes en train de taper votre pied dans une balle. Vous voyez, on est sorti du cadre. Et peut-être qu'au lieu de mettre des cages, vous allez finalement jouer sans cage. et peut-être même réinventer les règles du jeu. Parce qu'en réalité, si vous dites, les gars, vous venez, on joue au foot, vous avez déjà un cadre. Donc ne serait-ce que de vous dire, je vais faire quelque chose, je vais rentrer dans une activité dans laquelle je ne vais pas identifier ce que je vais faire avant de la faire, et je poserai le cadre dans un second temps. Je vous assure que c'est un exercice qui déjà mentalement peut être intéressant, mais que vous pouvez déjà faire sur le terrain, comme j'ai pris l'exemple pour jouer au ballon, et pas forcément jouer au foot. C'est ce qui permet à des personnes d'inventer quelque chose qui n'existe pas. C'est qu'elles sont en train de pratiquer quelque chose et d'un coup, elles se permettent de sortir du cadre pour continuer dans la direction de ce qui leur vient de manière plus ou moins naturelle, spontanée. Elles laissent place à leur créativité. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas une récitation marchée sur la ligne. Elles se permettent d'inventer une autre approche, sans ligne, sans point, sans route. Elles créent des chemins là où il n'y en avait pas. Quelque part, c'est la propre réalité de la vie, c'est que nous avons besoin, pour exister et se sentir spécifique, de se donner l'impression, je dirais, je le ferai de manière un peu subjective, de se donner l'impression, et mieux encore, d'aller sur des voies qui sont différentes de ce qu'on nous avait dit. Et là, on a un sentiment parfois d'accomplissement. Pas nécessairement, parce que parfois on peut avoir un sentiment d'accomplissement en étant pleinement sur les voies qui ont déjà été pré-tracées. Parce qu'on a besoin de ce cadre de la normalité. Seulement la réalité paradoxale fait qu'on a aussi besoin de la spécificité qui est hors cadre. Et se donner donc la permission d'être auteur. Vous savez que j'aime ce terme, j'ai déjà employé maintes fois dans des rendez-vous. Être auteur, ça veut dire que l'on va écrire sa vie. On ne va pas forcément vivre la vie que quelqu'un d'autre a écrite pour nous. On va vivre la vie telle qu'on le sent, nous. Telle qu'on le souhaite, nous. Y mettre les ingrédients que l'on veut y mettre soi-même. Se permettre de modifier la recette parce que ça vient. On n'y réfléchit pas. On le sent comme ça. Permettez-vous de vivre ça. Et si un cadre vous vient après pour le poser, pourquoi pas? Et donc vous allez le dénommer, lui donner un nom. Et puis si aucun cadre ne vous vient après, ben pourquoi pas? Vous n'avez pas forcément besoin de donner un nom à une chose pour qu'elle existe. C'est un petit peu la difficulté, ou je dirais l'inconvénient de la parole, de l'écrit. À partir du moment où on a inventé la parole et l'écrit et qu'on a commencé à dénommer les choses, on a eu l'impression de prendre le pouvoir sur elles, en même temps on les a limitées. Et on a en même temps nourri l'illusion que les choses qui sont non nommables n'existent pas. On appelle ça ineffable. On ne peut pas en parler, donc elle n'existe pas. Comme on a fait cette même erreur en disant que ce qu'on ne peut pas voir n'existe pas. Ce qu'on ne peut pas prouver n'existe pas. Le seul inconvénient, c'est que l'amour ne peut pas être prouvé. Et là, on est bien face à une limite où on se dit, il existe. Et l'amour ne peut pas être cadré. Ça c'est intéressant. Pourtant, il existe. On a réussi à cadrer le temps. On a mis les minutes, les secondes, les heures, les mois, les années. Ok. Mais l'amour, il est incadrable. On essaie de le faire et parce qu'on a volonté parfois de maîtriser, on réduit l'amour au sexe. C'est une manière de cadrer, de délimiter, de prendre le pouvoir. Pourtant, la réalité est que l'amour est incadrable. Il n'y a pas de limite. On ne peut pas le cantonner, le contrôler, en faire les contours, prendre le pouvoir sur l'amour. Je voudrais vous laisser avec un dernier exercice qui, cette fois-ci, sera bien pratique. Vous pouvez le faire avec une situation de vie qui est la vôtre, n'importe laquelle, à vous de choisir. Une situation dans laquelle vous avez peut-être, pourquoi pas, l'impression d'être dans des cadres. Donc peut-être chercher une situation dans laquelle vous voudriez que les cadres bougent, que les frontières deviennent plus souples, que des murs deviennent tissus, voiles, voire disparaissent. Plongez-vous dans cette situation en vous disant, tiens, si j'enlève les cadres, si j'enlève les murs, qu'est-ce que ça ferait? À quoi ça ressemblerait? Sur quoi ça pourrait s'ouvrir? À quoi ressemblerait mon expérience dans cette réalité-là? Vous êtes peut-être dans une situation de vie, qu'elle soit professionnelle, personnelle, relationnelle, avec des amis, vos voisins ou que sais-je, vos enfants. votre conjoint dans lequel vous avez le sentiment d'avoir un poids cadre et que vous faites ce que vous avez à faire parce que vous pensez qu'il faut le faire pour être normal, pour être un couple normal, pour être un employé normal, pour être un parent normal, pour être un voisin normal. Et en fait, vous avez peut-être le sentiment que ça pèse, quoi. Et même si je prends, ne serait-ce que dans la profession, vous êtes un comptable ou un secrétaire. Alors, un comptable normal travaille comme ça. Et vous savez que vous êtes en train d'exécuter l'histoire, le passé, le poids de ce qui a déjà été qui pèse sur vous. C'est le poids de la normalité. Rentrez dans ce paradoxe en étant normal et spécial, spécifique. Vous pouvez être un comptable avec le poids de la réalité de l'histoire. C'est comme ça que l'on fait la comptabilité, tout en vous disant, tiens, et si j'avais une autre approche de la comptabilité et que j'y introduisais ceci, cela, et que peut-être j'apportais une logique ou un raccourci sur tel aspect, qu'est-ce que ça donnerait ? Ah ben, ça ne donnerait rien, finalement, ça ne marche pas. Et si je le fais pour un pareil, dans un autre point, toujours dans la comptabilité, en faisant ceci et cela, tiens, ah là, ça donnerait ça. Et est-ce que ça rendrait service ? Est-ce que ça me rendrait service ? Est-ce que ça rendrait service à quelqu'un d'autre ? Là, je participe à construire, à créer une amélioration de ma propre vie et peut-être de la vie de quelqu'un d'autre. Je l'ai pris pour un domaine professionnel, mais prenez-le pour votre domaine personnel. Est-ce qu'un parent normal doit faire ça et le faire comme ça ? Et si j'étais un parent spécifique et que je bougeais le cadre, je ferais les choses autrement. Qu'est-ce que je pourrais me permettre de faire ? Toujours avec le même objectif, faire en sorte que mon enfant soit satisfait quand il me pose une question, quand il vient me voir, je ne sais pas. Qu'est-ce que je pourrais faire de spécifique avec le même objectif pour obtenir un résultat, mais par un autre chemin ? Souvenez-vous de ces 9 points à relier avec 4 coups de crayon sans lever la pointe. Soyez capable de vivre ce paradoxe. Ok, normaux, ouais. C'est ce qui pèse le plus sur votre existence. Travaillez à être spécifique, à être spéciaux, à être hors cadre, à être vous. Parce qu'en fait, vous ne rentrez pas dans un cadre. Une partie de vous rentre dans le cadre, oui, mais pas tout. Naturellement, spontanément, vous dépassez puisque vous êtes unique. Habituez-vous à sortir du cadre. Génial, vous êtes arrivé à la fin de ce rendez-vous avec moi jusqu'au bout, je vous remercie. Je compte sur vous pour les étoiles sur les réseaux sociaux. 2, 3, ça fait un peu mec, donc 4, allez, 5, 4 ou 5, avec un commentaire sur Apple Podcast, Google Podcast. Je vous dis cela parce que ce sont les plus connus, ceux qui sont mis en exergue en avant. Et puis évidemment, les commentaires sur la retranscription de ce rendez-vous sur le blog Heureux au présent.